30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Enfin, ça dépend pour qui.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue aux infos choisies. Nous sommes le vendredi 20 mars 2026. Il est 12h passées de 32 minutes. Et donc, dans ces infos choisies, nous avons entendu l'ancien générique. Et voilà.
Eh bien, bienvenue à tous et à toutes sur Radio Galère 88.4 et en direct, donc, et sur Radio Aioli sur Internet.
Et on commence par un édito sur les municipales.
Oui, effectivement, on n'avait pas forcément envie d'en parler, mais on va quand même en dire deux mots, voire quatre. Alizio déteste Radio Galère.
Eh oui, il déteste vraiment Radio Galère.
Oui, parce qu'en septembre dernier, il attaque Radio Galère dans les médias, en dénonçant l'attribution de subventions de la métropole et du département à une radio d'extrême gauche et pro-immigration. Alors, il attaque ça un peu d'une manière avec des chiffres, en avançant des chiffres complètement faux, hein, mais au-delà de ça, en utilisant une rhétorique en vue de criminaliser les luttes. Et voilà donc à quoi ressemble l'extrême droite, mensonge outrancier et manipulation.
Malheureusement, en plus, l'extrême droite est au port du pouvoir. Et c'est vraiment un danger pour tous les Marseillais et les Marseillaises. Ça veut dire qu'il y aura toujours plus de répression dans les quartiers populaires du centre-ville, que ce soit à Noailles, au Réformé ou à Belzunce, comme on l'a vu ces dernières semaines. Ça veut dire aussi une grosse réduction des subventions pour de nombreuses associations qui participent à la vie marseillaise. Donc voilà, c'est le Marseille qu'on aime et qu'on représente, qu'il veut attaquer, mais on ne se laissera pas faire.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors, il n'y a pas que les municipales à Marseille qui se passent. Depuis deux semaines, on a aussi les élèves des lycées Montgrand, Artaud, Victor Hugo, Saint-Charles et Diderot qui bloquent leurs établissements. Ils protestent contre la baisse des dotations horaires globales qui sont prévues pour la rentrée 2026. Donc, les dotations horaires globales, elles sont distribuées dans des enveloppes et ça permet d'assurer les enseignements dans un établissement. Donc, son volume et sa répartition conditionnent la réussite de tous les élèves et donc les conditions aussi d'enseignement. Alors, on a Adèle au lycée Saint-Charles qui a été interrogée par nos confrères de la Marseillaise qui nous explique que ce sont, je vais la citer, ce sont 77 heures qui vont être supprimées. On veut les récupérer. On voit le budget de l'armée multiplié alors que celui de l'éducation est totalement délaissé. Et c'est justement là que vient le problème. En fait, le budget voté par le Parlement, il prévoit moins d'argent pour l'éducation nationale, à défaut d'avoir augmenté celui de la police et de l'armée. Donc, à savoir que les dotations horaires globales, elles découlent directement du budget de l'éducation nationale. Donc ça se répercute sur les établissements scolaires. Alors il y a des revendications, hein, des syndicats d'enseignants, des étudiants, concernant la difficulté dans laquelle ils doivent faire cours et les besoins nécessaires pour que tous puissent étudier dans de bonnes conditions, mais personne n'est écouté. En même temps, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un gouvernement qui, pour son concours pour devenir CPE en 2026, demande une dissertation où il faut absolument prouver que le service public d'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités scolaires et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Voilà ce qu'on demande à nos futurs CPE. Bah, tout ce qu'on peut espérer de ça, c'est d'autant plus de répression policière. Voilà, il y a eu 6 lycéens arrêtés et placés en garde à vue depuis le début du mouvement. Donc il a commencé il y a deux semaines. Hein. Il y a même un élève qui a été cherché directement chez lui. Dans les quartiers nord, où on retrouve les lycées Diderot et Artaud, les CRS sont intervenus à plusieurs reprises avec un usage systématique de gaz lacrymogène. Alors, petite idée du coup pour nos dirigeants, ça m'a pris juste quelques minutes pour consulter les articles de presse régionale sortis sur le sujet au cours des dernières semaines, et du coup de voir les revendications des lycéens, lycéennes, mais aussi des enseignants. Alors elles ne sont pas juste simples, c'est que c'est aussi des bonnes idées. Alors vous avez l'air très occupé, donc je vais vous les dire un peu comme ça, vous ne perdez pas votre temps. On ne supprime pas les heures prévues pour les enseignements, déjà c'est un bon début, en particulier pour les demi-groupes, parce que ça permet qu'on ait des cours avec moins d'élèves par classe et donc plus de temps par élève. On peut aussi éviter de supprimer certaines options et bonus qui sont importants pour des élèves, qui sont pour certains, certaines, les seules raisons pour lesquelles ils viennent en cours encore. Après, si vous avez encore plus de temps, vous pouvez vous pencher sur le fait de pas avoir des classes remplies avec 35 élèves, mais aussi avoir un personnel de santé et d'accompagnement social à plein temps dans chaque établissement. Enfin, si on écoute un peu les idées d'extrême droite, on n'a sûrement que des dangereuses propositions d'extrême gauche.
Et aussi, petit conseil pour... pour les professeurs, c'est souvent pendant un contrôle de police, ils sont au moins deux ou trois policiers, et ça serait hyper intéressant qu'il y ait au moins deux professeurs par classe quand il y a des classes de plus de 30 élèves ou même de 25 élèves.
C'est clair.
Tant qu'à faire, ça ne ferait pas forcément augmenter trop le nombre de fonctionnaires si on faisait baisser un peu celui du service de police.
Voilà, il y a plein d'idées.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors, on voulait revenir brièvement sur le procès des 7 personnes qui ont été arrêtées le 18 septembre en 2025 pendant une tentative de blocage de l'autoroute à Joliette. Et le procès de ces 7 personnes a eu lieu mardi dernier au tribunal de Marseille. Cette action s'était inscrite dans un appel informel de blocage organisé en dehors des partis et des syndicats, même si certains syndicats ont rejoint le mouvement pendant son organisation. Alors pour rappel, cette mobilisation visait à s'opposer et refuser l'austérité budgétaire qui avait été imposée par l'ancien Premier ministre Bayrou. Vous vous en souvenez de lui ? Non, pardon. Donc, dans toute la France, des centaines d'actions de blocage ont été organisées à l'échelle locale, allant du blocage du périph', de dépôts de pétroliers, d'entrepôts logistiques, de péages, de voies ferrées, jusqu'à des actions de boycott comme ne pas consommer ou ne pas utiliser sa carte bancaire. La peur d'un nouveau phénomène gilet jaune planait au-dessus de la France. Ils ont donc mis le paquet pour ne pas voir le mouvement continuer dans le temps, avec, pour moyen garanti, la matraque, les lacrymos, les flashballs et bien évidemment les arrestations. À Marseille, le 18 septembre, c'est 7 personnes qui ont été arrêtées dans une nasse. Plus facile, plus simple, alors qu'ils tentaient eux-mêmes de bloquer l'autoroute de la Joliette, quoi, celle qui monte vers la A51. Et après avoir passé plus de 24 heures de garde à vue, ils ressortent avec une inculpation de trouble à l'ordre public, participation à un attroupement non armé, un refus d'obtempérer après sommation et pour certains, un refus de signalétique. 3 d'entre eux et elles sont sortis avec un contrôle judiciaire d'interdiction de manifester à Marseille jusqu'au procès. Nous sommes donc mardi, il est 14h. Et on est dans cette salle d'audience qui est présidée par une présidente et 2 assesseurs, dont un qui ne cache pas ses proximités avec le RN dans le Var. En témoignent les selfies tout sourire en compagnie de Le Pen-fille sur le net. Et la procureure, elle, connaît bien l'affaire puisque c'est elle qui était aux manettes pendant les arrestations et les enquêtes. En gros, ils étaient bien, on était en famille, c'était super. Et donc, dans cette salle d'audience, les affaires s'enchaînent, et tout aussi sordides les unes que les autres, hein, qui témoignent tant de la précarité sociale que d'une justice de classe punitive et répressive. Et c'est donc après 6 heures que les 4 avocats des 7 personnes se présentent devant le tribunal. Chaque inculpé passera individuellement, mais c'est déjà dès la première prise de parole que l'avocate fait une déclaration pour invoquer une nullité pour leurs clients et clientes et surtout pour dire que leurs clients et clientes ne répondront pas aux questions. La demande de nullité concerne des fiches de mise à disposition. Je vais revenir deux secondes dessus. La fiche de mise à disposition, c'est une fiche qui est rédigée par un flic qui, lui, a procédé à l'arrestation. Et ça, ça concerne 6 des 7 personnes arrêtées. Ce document remplace un peu le procès verbal d'interpellation qui, lui, était visiblement trop long à remplir. Faut pas trop leur en demander à eux. Hein. Puisque la mise en place de ces fiches a été mise en place depuis 2023 et qui, elle, vise à accélérer les procédures d'interpellation. Là, on est face à une image de l'administration vraiment répressive dans toute sa grandeur qui n'est pas sans rappeler les meilleurs moments de notre histoire. Je vous laisse deviner lesquels. Bref, et donc pour en revenir aux nullités, ces fiches donc sont mal remplies. Elles ne permettent pas d'avoir des informations de contexte et ne suffisent pas à justifier les charges que la PROC a mis sur le dos des personnes interpellées. Donc vexée comme un pou, la PROC s'emballe un peu et du haut son perchoir, elle nous fait le coup de « vu la masse de boulot qu'ont les flics, à ce moment-là, je vous laisse imaginer, Madame la Présidente, qu'on ne va pas se mettre à écrire un roman non plus. Merci, Madame. » Donc c'est ce à quoi une des avocates rétorque « ce n'est pas ce qu'on demande. On demande juste à ce que soit inscrit ce pourquoi les personnes sont ici devant vous. Sinon, il suffirait de leur mettre un post-it sur le front avant de les faire entrer dans un comico. » C'était ambiance. Hein. On va pas se refaire le procès. Les avocats et avocates ont plaidé l'arlax en lâchant au passage que le pouvoir judiciaire était de plus en plus utilisé comme moyen de maintien de l'ordre, ce qui est visiblement pas son truc. Hein. Bon, ça, nous, on le savait déjà, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Au final, tous et toutes ont été relaxés pour nullité sur les fiches de mise à disposition pour 6 d'entre eux et elles, et une nullité pour absence de procès verbal de notification des droits pour 1. Voilà, tout ça pour ça. Un mouvement tué dans l'œuf grâce à un appareil répressif bien roté, 6 mois de contrôle judiciaire pour 2 d'entre eux, et après, on se demande que fait la police. Ah, j'ai peut-être une réponse à faire chier.
Et on se fait une petite pause musicale en écoutant Sodad, Ordre ou Chaos.
Poto, je suis pas bien. J'ai fait des mélanges dès le matin. Y'en a qui sont sereins. Je les visquis demain. Y'aura plus de témoins. L'ambiance, auto dirige-moi direct vers la sortie. Tellement qu'ils sont sortis, y'en a qui comptent, y'en a qui comptent les sentiers. Je t'ai laissé me charmer, y'en a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois, je suis trop claqué. Je t'ai laissé me charmer, y'en a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois. Mets-toi à ma place, je kiffe pas trop. Je mets mon casque quand j'entends le métro. Je calcule pas ce qui passe ou je le fais trop. C'est toujours noir ou blanc, ordre ou chaos. Un peu de regret, de temps en temps, d'avoir su d'où je venais. Je me mens, je n'ai pas d'intérêt. À te vendre, je veux pas te faire espérer. Un moment, tu t'es laissé me charmer. On a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois, je suis trop claqué. Je t'ai laissé me charmer. Y'en a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois. C'est comme une route de secours, seul. Oui, je sais qu'il y a du monde autour. J'ai pas fait le tour du parcours. C'est juste que la distance prend des détours. Là où je m'envole, ouais, je vais dégoûter tout ce que tu convoites. Ouais, ouais, et pas que j'en fais des tonnes. 2, 3, 4 dans ma tête, je crois que je suis malade. Je crois que je suis malade. Je t'ai laissé me charmer. Y'en a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois, je suis trop claqué. Je t'ai laissé me charmer. Y'en a partout dans la zone, mais je calcule pas, je les laisse juste sonner. Déjà 4 fois.
Les infos choisies, vendredi 12h30. Et maintenant, on va parler du procès qu'il y a dans le Limousin sur ces enjeux de 5G ce jeudi et ce vendredi. Donc, 2 personnes comparaissent et ils sont suspectés d'avoir joué un rôle dans l'incendie de fourgon Enedis en 2020 à Limoges et dans la dégradation de plusieurs antennes au CAR en 2021. Donc le 11 janvier 21 au CAR, deux antennes relais pour les téléphones portables et le pylône émetteur TDF se retrouvent incendiés. Autour d'un million de personnes se retrouvent sans radio et sans télé pendant plusieurs jours dans certaines parties du Limousin et de Dordogne. Et cet incendie avait été revendiqué quelques jours plus tard par un, je cite, comité pour l'abolition de la 5G et de son monde. Six personnes avaient été arrêtées le 15 juin 2021 en Limousin à la suite donc d'une enquête menée avec les moyens de l'antiterrorisme. C'est un peu énorme, l'antiterrorisme. Et là, deux passent en procès pour répondre aux accusations d'association de malfaiteurs et de dégradation de biens par moyens dangereux pour les personnes. Alors, on pourrait se autoriser 5 minutes à voir les choses autrement. Pour le dire autrement, justement, que les termes des machines policières et judiciaires. Ça serait un procès de la numérisation à marche forcée du monde et du droit à y résister. Il y a un enjeu à remettre l'ensemble des humaines au centre des questions techniques et technologiques. Le système actuel les laisse à quelques industriels et politiques. Or, au vu de leur impact, ces techniques et ces technologies sur l'exploitation humaine, et des terres, sur la biodiversité et la santé des êtres vivants, il est nécessaire qu'on réfléchisse collectivement au choix des développements techniques et technologiques. Avec l'introduction forcée exponentielle des technologies de pointe dans nos quotidiens, avec le rythme forcené auquel cela transforme nos comportements, avec la menace de l'hiver nucléaire et la généralisation des cancers, difficile de nier l'urgence à changer de cap. Pourtant, et c'est important, cela ne justifie pas d'en faire le seul et unique front. Actuellement, nous subissons un grand coup de colonialisme, de marketing, les dernières technologies de communication agroalimentaire guerrière qui développent une poignée de ces idéologues et industriels capitalistes guerriers. Mais nous, quelles technologies on aimerait développer pour nous aider dans nos vies quotidiennes et dans quel monde? Parce que les deux sont intrinsèquement liés et noués. Les questions de domination et de discrimination ne sont pas à laisser à l'arrière-plan quand on amène ces questions. Alors comment articuler nos analyses du monde pour penser dans un même mouvement l'anéantissement des logiques capitalistes et des dominations croisées? Résister au déploiement technologique, le mettre en débat, réfléchir à l'emprise du numérique dans nos vies est une nécessité, sans tomber dans une posture technophobe du « c'était mieux avant ». Voilà, ce procès est donc l'occasion de renverser l'accusation et de soutenir le droit à résister au monde mortifère qu'on nous promet. Le gouvernement est resté sourd aux alertes du mouvement Stop 5G sur les impacts sociétaux et de santé publique de la 5G, sourd à l'analyse de la Convention citoyenne à ce sujet. Il a, comme à son habitude, traité par le mépris des opposantes en les qualifiant d'amis, mais il n'a pas hésité à utiliser les moyens de l'antiterrorisme pour faire taire toute contestation. Alors pour toutes ces raisons, soutenons les inculpés qui risquent de payer de leur liberté leur volonté de participer au rapport de force contre le capitalisme numérique.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors, on a parlé de Technopolis, on a parlé de fichage et on va continuer sur cette lancée. Moi, je voulais vous parler de la hausse de la Technopolis en France, qui, en soi, mériterait vraiment une émission à part entière, probablement vu la somme des informations à relayer, qui le sont assez peu en réalité, je trouve. Aujourd'hui, je serai donc introductive. Et je voulais citer surtout un article de Disclose qui est paru le 16 mars. Donc Disclose, c'est un média d'investigation auquel vous pouvez accéder gratuitement, qui parle de l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police. Via leur téléphone qui leur a été fourni il y a quelques années, qui s'appelle Neo. Bon. Concrètement, cette reconnaissance faciale permet un accès au TAJ. Le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. C'est un énorme fichier dans lequel sont rentrées toutes vos informations si vous avez eu un contact avec la police à un moment donné, que ce soit en tant que victime ou en tant que, même pas coupable, mais suspecté coupable. Et donc, la reconnaissance faciale peut être utilisé pour l'accès à ce dossier-là par une photographie via le téléphone que ces policiers ont en main. Or, selon les communications qui sont faites sur le site internet même du TAJ, c'est tout à fait interdit, la reconnaissance faciale n'est censée être utilisée que dans le cadre d'une enquête administrative ou judiciaire. Or, en l'occurrence, ce que révèle Disclose, c'est que l'utilisation de la reconnaissance faciale est utilisée. Enfin, les policiers y ont recours facilement, de façon presque spontanée, dans certains quartiers populaires notamment. La photo des personnes est parfois forcée. Et du coup, avec cette photo, l'idée, c'est que les policiers arrivent, prennent en photo la personne et ont accès directement à toutes les informations qui ont été rentrées sur ces personnes sur le tâche. Ça peut être des informations très intimes, donc le genre, toutes les raisons pour lesquelles ces personnes ont été en relation avec la justice avant, donc pour peu que les personnes aient déposé plainte pour une agression homophobe, par exemple, les policiers peuvent être informés ainsi du fait que la personne en face de est homosexuelle. Enfin, en fait, ce tâche donne info à plein de données personnelles auxquelles les policiers ont accès directement par une simple photographie du visage. Il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France en 2014 pour le fichage des personnes et le stockage sur la durée des informations. C'était donc pour une affaire qui concernait en l'occurrence le STIC, qui est un système de traitement des infractions constatées. Donc un système de fichage, encore une fois, qui a été supprimé parce qu'il a été remplacé par l'OTAGE. Et qui, l'OTAGE regroupe donc le STIC et un autre fichier, enfin un autre système de fichiers. En l'occurrence, dans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il y avait donc le plaignant avait été classé sans suite dans une affaire, mais ses informations avaient été rentrées dans l'OTAGE et du coup, il se plaignait du fait que ces informations étaient rentrées et qu'il n'avait aucun moyen de les supprimer. La Cour a donné raison au plaignant en disant que l'atteinte à sa vie privée était disproportionnée et ne respectait pas l'article 8 de la CEDH. Bref, pour la faire courte, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné déjà la France sur le fait qu'on faisait trop d'atteintes à la vie privée des personnes et que les données personnelles n'étaient pas assez respectées sur un dossier qui était encore moins grave en termes d'atteinte aux données personnelles et à la vie privée que le TAGE. Là, aujourd'hui, ce TAGE est utilisé par n'importe quel policier qui détient un téléphone fourni par sa hiérarchie qui lui permet, par une simple photographie, souvent forcée, d'avoir accès à l'intégralité de la vie judiciaire d'une personne. L'enquête de Disclose montre que le procédé est opéré donc de façon assez spontanée par les policiers, ou en tout cas selon les témoignages dont les autrices, auteurs de l'enquête ont eu accès, que c'est connu chez les populations les plus victimes de la police. Ça montre un certain sentiment d'impunité de cette police, qui est d'ailleurs soutenue par sa hiérarchie, puisque dans l'enquête en question, lorsque la hiérarchie est interrogée, elle reste assez évasive sur le sujet. Ça soulève la nécessité, pour nous, personnes qui sommes connaissantes de ça, grâce à cette enquête notamment, et moi personnellement, j'avoue, pas parmi les premières victimes de la police, ça souligne cette nécessité d'alerter et de rester alerte, parce que l'utilisation de la technopolice augmente de façon souvent insidieuse et sur des populations les plus marginalisées, précarisées. J'ai voulu faire un petit éventail, un petit répertoire de cas où la technopolice est utilisée un peu en zoom-zoom, comme ça. Il y a la vidéosurveillance automatisée qui était mise en place pendant le JO de Paris 2024. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait un petit peu parlé à ce moment-là. Concrètement, c'est des caméras de surveillance, comme il y en a déjà partout, qui, grâce à des logiciels algorithmiques et l'utilisation de l'intelligence artificielle notamment, arrivent à catégoriser certains comportements comme étant criminalisables. Ça, c'est moi qui utilise ce mot-là, ou non. Donc des fois, c'est des comportements tout à fait random. Le fait de rester statique un certain temps peut être considéré comme un comportement anormal qui peut susciter une alerte, etc. Donc ça a été condamné par plein de collectifs, d'associations de protection des droits de l'homme. Et c'était déjà, ça a emporté une désapprobation générale, surtout que la mise en place même de la VSA, donc de la vidéosurveillance automatisée, s'était faite de façon un petit peu illégale. Bref, cette vidéosurveillance automatisée a été reconduite en janvier, là, de cette année, sous prétexte des JO 2030. Sachant que le Conseil constitutionnel avait déjà refusé sa reconduite parce que c'était pas assez précis selon un premier projet de reconduite par le gouvernement. Voilà pour la vidéosurveillance automatisée. On a un autre projet de loi qui est actuellement en discussion qui vise à faciliter l'usage de technopolice du coup pour des autorités municipales et des gardes forestiers. La technopolice en question, ça va être l'usage de drones, par exemple pour couvrir des manifestations, l'utilisation de caméras piétons pour les gardes forestiers, plein d'autres utilisations. C'est une loi qui n'est pas encore votée puisque elle est en discussion, c'est un projet de loi. Je vous encourage à aller lire un article de la Quadrature du Net qui est sorti ce mois-ci sur le sujet et qui en parlera beaucoup mieux que moi. Bref, on a de plus en plus d'utilisations techniques à des fins policières et de surveillance policière. Et je voulais finir sur un dernier exemple qui est celui de l'utilisation de l'IA, notamment pour la traque des personnes immigrées à Minneapolis, donc dans l'histoire de la ICE dont on a un peu parlé il y a quelques semaines. Le PDG de Anthropic, Anthropic étant une grosse entreprise d'IA qui s'appelle Dario Amedei, le PDG du coup, s'est opposé à l'utilisation de son IA Claude par la ICE en constatant qu'il y avait de trop fortes atteintes aux droits, aux libertés, et que c'était une direction que même lui, en tant que PDG, qui du coup son intérêt principal c'est de se faire de l'argent, il n'arrivait pas, enfin il ne pouvait pas être d'accord avec ça. Donc il s'est opposé à cette utilisation-là. Ce que je veux dire, c'est que déjà on a de plus en plus un virage de l'utilisation même de l'IA, des dernières technologies que nous, comme un des mortels, on ne maîtrise pas et on ne comprend pas toujours, qui sont utilisés pour nous surveiller, pour nous fliquer, bientôt pour nous arrêter, selon des procédés qui rappellent une période assez sombre de l'histoire. Et donc voilà, c'est important de rester alerte, d'aller lire les médias qui en parlent le plus, parce que là, pour l'instant, on a encore des PDG qui font semblant d'être un peu philanthropes et d'accepter de ne pas l'utiliser, mais ça ne va pas durer. Et donc, allez lire l'article de Disclose, portez des masques en manifestation, restez alerte, et voilà.
Alors cette semaine, on a l'agenda des infos choisies, donc on retrouvera malheureusement pas la sale gueule.
Oh non !
La salle a été victime d'une fermeture administrative en raison de normes de sécurité qui ne permettaient pas d'accueillir du public. Alors on leur apporte tout notre soutien, c'est pourquoi on relaie leur appel. Ils cherchent des gens capables de réaliser les travaux nécessaires à l'accueil du public. Ils cherchent des avocats aussi en droit administratif. Des entreprises qui voudraient bien inscrire les gens de la sale gueule sur leur formation sécurité incendie, parce que ça coûte assez cher. Voilà, donc allez voir leur post Instagram, ils en disent un peu plus. Et encore une nouvelle fois, soutien à la sale gueule.
Et rappelons que c'est les logiques d'embourgeoisement qui font fermer, font les fermetures administratives des lieux, entre guillemets, bruyants.
Parce que les bars à thé à matcha, là, ça ne ferme pas.
Et oui.
Ce soir à Manifesten à 19h, on a une soirée de soutien à la communauté squattée de Prosfielka, donc, qui est une communauté au centre d'Athènes qui est composée de 400 personnes et 27 nationalités, qui existe depuis 16 ans. C'est un peu une idylle révolutionnaire, un des plus grands squats d'Europe. Mais depuis l'été dernier, le gouvernement Mitsotakis veut mettre fin à cette expérience révolutionnaire. D'ailleurs, le 5 février, Aristoteles Chantzis, un habitant du quartier, a commencé une grève de la faim pour s'opposer du coup à cette fermeture et réclamer une rénovation des bâtiments. Le programme de la soirée à Manifesten, du coup c'est un repas solidaire à prix libre, un concert de Rebetiko, qui est une musique populaire grecque, suivi des 1000 guitarras, qui est une musique révolutionnaire chilienne, puisqu'on a dit c'est internationaliste, afin de récolter de l'argent et envoyer du soutien à la communauté. Il y aura aussi des discussions autour de ce squat, de ce qu'il porte en termes d'idylle révolutionnaire.
Ce soir également à la DAR à 19h, présentation par Maria Bulatova, militante anarcho-féministe russe en exil, et un repas à prix libre en soutien à la résistance queer féministe sur le front en Ukraine. Et ça parle des amalgames pro-russes dans les réponses dans les réseaux militants d'extrême gauche. Allez écouter.
Toujours ce soir, c'est à la Maison des Associations 93 de la Canebière. C'est une soirée participative au champ militant.
Samedi de 14h à 23h30, vous pourrez aller au bal du pré-carnaval. Voilà, le carnaval ayant lieu le 28. Donc, batucadas, jeux, bars, pizza, animation, costumerie, balletti, concerts et DJ set, anti-militariste et anti-RN. J'ai pas le lieu, si vous l'avez.
C'est à la plaine ?
Ah, c'est le 29 du coup. C'est ça qui m'a mis le doute sur le lieu. Parce que le carnaval de la plaine, c'est le 29.
C'est le 29. Excuse-moi. Et voilà, contexte aussi du samedi 21, qui est une journée de lutte contre les discriminations racistes raciales. Donc, allons-y masqués, mais allons-y. Et dimanche, à 14h, Porte d'Aix, on a la traditionnelle manifestation en soutien à la Palestine. Et je finis encore une fois, lundi, on a une projection en plein air à la Plaine à 19h30. C'est une projection du film Madeleines, qui est porté par Thousand Madeleines to Gaza, sachant qu'actuellement à l'ESTAC, on a du coup un projet d'envoi de Madeleines, bah pas de Madeleines, mais de bateaux vers Gaza, dans la grande coalition internationale, et donc ils sont actuellement en préparation à l'ESTAC pour un départ en avril. Donc lors de cette projection, ça en parlera. Voilà, venez nombreux, nombreuses.
Et voilà, les infos choisies, c'est fini. Et on vous rappelle bien sûr que Alizio déteste Radio Galère. Voilà, pour cette... On se retrouve la semaine prochaine, non ?
On espère se retrouver la semaine prochaine.
Yes.
Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Et là, c'est à 13h15, soit dans 13 minutes, nous écouterons l'agenda alternatif de Mélodie.